Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Carnet de Passage. Je suis Julia et aujourd'hui je suis accompagnée de mes camarades Lola et Robin qui co-animeront avec moi ce podcast.
Bonjour.
Bonjour.
Carnet de Passage, c'est une émission pour celles et ceux qui s'intéressent de près ou de loin aux sciences humaines et plus particulièrement à l'anthropologie. Dans ce podcast, vous entendrez des chercheurs et des chercheuses parler de leur expérience sur ce rituel de passage si particulier à notre profession, le terrain. L'idée étant que vous ayez accès à des conversations moins formelles que ce que vous avez l'habitude d'entendre dans le milieu universitaire ou encore dans des événements scientifiques. Et aussi que vous ayez la possibilité de comprendre toute la dimension humaine de notre activité et de celles et ceux qui la font vivre. Pour ce premier épisode, on a le plaisir d'accueillir Laurent Gabaye, maître de conférence à l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Bonjour Laurent et merci d'être venu.
Merci pour votre invitation.
Laurent, vous êtes donc un anthropologue africaniste, ce qui signifie que votre domaine d'étude se concentre sur le continent africain, et plus particulièrement en Afrique de l'Ouest. Vos thématiques de recherche tournent autour de la danse, des rites initiatiques, de la parenté et du système des classes d'âge. Plus récemment, vous vous êtes aussi intéressé à d'autres sujets tels que l'anthropologie de l'amour ou encore à des sujets qui abordent ce qui constitue les frontières de l'humanité. J'espère qu'on n'a rien oublié. Est-ce que ça
correspond ? C'est parfait, c'est parfait.
Il y a quelque chose que vous aimeriez rajouter peut-être sur les recherches que vous faites actuellement ?
Non, une partie des recherches sur l'amour porte aussi sur l'amitié. En fait, c'est essayer d'aller un peu au-delà des questions de parenté classiques que j'avais abordées.
Donc, pour revenir sur votre travail en Afrique, vous avez d'abord commencé par effectuer un terrain de recherche dans les villages de langue Manon et Konon, du sud de la Guinée, qui est une région pluriethnique. À l'origine, c'était quoi votre objet de recherche ?
Alors, moi, j'étais étudiant à Nanterre à l'époque, et j'avais vraiment sorti de la littérature un projet qui était au croisement d'études de parenté. Déjà, je m'intéressais à ça, et d'une étude sur le secret, en fait. Et j'essayais de croiser secret et parenté. Et donc, j'avais été dans cette région pour... c'est une région où il y a des institutions initiatiques qui s'appellent le Poro. Donc, tous les différents groupes qui parlent différentes langues au sud de la Guinée, et ça va jusqu'au Libéria, en Sierra Leone, ont des institutions initiatiques pour les hommes et pour les femmes. Et donc, j'avais formulé un projet de recherche un peu sorti de la littérature. Et après, il fallait bien y aller. Donc, j'ai passé quelques mois dans cette région pour chercher l'endroit où je m'installerais éventuellement pour une thèse, quoi. Mais les choses ne se sont pas passées exactement comme prévu.
Ouais.
Mais il y avait eu des mouvements politiques forts, hein, dans cette région. Il y a eu une guerre au Libéria. La Guinée avait accueilli toute une partie des réfugiés libériens. Au moment où moi, je suis arrivé, il y avait encore la Croix-Rouge internationale. Il y avait toute une série d'instances non gouvernementales et internationales qui essayaient de rapatrier les réfugiés. Moi, j'ai fait mon terrain là-dedans, mais quand je suis rentré, en fait, c'est mon directeur de thèse qui m'a dit « Mais je ne le sens pas très bien, quoi. » Je ne le sens pas très bien.
Votre directeur de thèse qui était...
qui était Michael Hausmann, qui était déjà mon directeur de maîtrise à l'époque. On n'appelait pas sa master. Donc, un homme charmant et très compétent, que j'aime beaucoup et qui m'a beaucoup aidé. Mais là, il a exprimé des réserves... Maintenant, je ne sais pas, hein, si je reconstruis, je reformule aussi les réserves. Moi, ce que ça supposait pour moi, c'était... j'ai été assez vite confronté, j'arrivais avec mon sujet qui aurait pu marcher. En fait, il y avait vraiment des questions de parenté. La thématique du secret, je ne l'avais pas inventée, elle était dans la littérature partout.
Oui, puis c'est un sujet que vous avez construit de base en amont avec des lectures, quoi. Il y avait
totalement avec des lectures.
Aucun autre matériau.
J'avais jamais mis les pieds dans cette région-là.
Oui.
Mais j'ai senti assez vite, par toute une série d'indices, qu'en effet, les gens sont des maîtres du secret. Ils sont très forts. Donc, ce qu'avaient écrit les anthropologues, beaucoup en langue anglaise, donc plutôt de l'autre côté de la frontière, était de décrire aussi des gens qui manipulent bien, la régulation de l'information réciproque. Ils savent très bien comment donner des indices que quelque chose est caché, etc. Donc, ils étaient très forts dans ce domaine-là. Donc, cette partie du sujet fonctionnait, mais... ça aurait supposé sans doute, la guerre, ou plutôt les traces de la guerre étaient bien là.
Vous évoquiez justement le fait que ça ne s'est pas passé comme prévu. Quelle était la finalité de ce terrain ?
C'était vraiment un premier... Je venais de finir mon DEA, ça s'appelait comme ça à l'époque, qui était l'année de préparation pour la thèse. Et donc l'idée était... Moi, je me suis dit, bon, je pars... C'est vraiment une région que je ne connais pas, je vais partir 3 mois et je vais voir où je peux m'installer, juste pour repérer un endroit où on se sent bien, où les gens nous aident, et où on a l'impression que nos intérêts intellectuels forgés très loin trouve un écho dans des intérêts des gens eux-mêmes sur un aspect de leur vie sociale où on se rencontre, on n'arrive pas à travailler en anthropologie sans que les gens nous aident. En fait, on n'extorque rien de leur part, on n'est ni des espions, ni des interrogateurs, ça ne peut pas marcher, donc il faut trouver un endroit où les relations qu'on tisse progressivement avec les gens sont la matière même de ce sur quoi on travaille. Donc c'était vraiment l'horizon, il était là, de trouver un endroit où le questionnement que j'avais formulé en amont, voir qu'est-ce qui résistait de ce questionnement. Et donc j'ai quand même pas mal bossé sur des questions de parenté, je suis revenu avec plein de trucs de parenté, plein de données sur l'usage quotidien du secret. Donc intellectuellement, ça marchait pas mal, et j'ai trouvé des endroits où j'étais plutôt bien. Mais donc, ouais, voilà, pendant 3 mois, je suis passé dans quelques villages où je me suis installé à chaque fois quelques semaines. Ouais.
Est-ce que avant de partir, vous aviez des a priori ou peut-être plutôt des appréhensions, surtout vu la situation ?
J'avais un peu sous-évalué, mais par un optimisme naïf, la situation politique, ça c'est sûr. Puis il y a des choses qu'on découvre, puis surtout il y a des choses qu'on connaît pas de loin. En fait, le traitement de la presse, alors aussi bien moi la presse française que je lis quotidiennement, que je trouve de qualité, en fait c'est juste une terra incognita. C'est une fois de temps en temps. C'est la région, par exemple, c'est vraiment typiquement le coin où il y a eu un des foyers d'Ebola. Donc cette région-là, là, on en a parlé au moment d'Ebola, quelques années après. Mais sinon, s'il n'y a pas Ebola ou des choses comme ça, les gens n'en parlent pas du tout. Et de l'autre côté, la presse guinéenne, ben, en fait, elle est incomplète. Les gens n'ont pas toujours les moyens de payer des journalistes pour faire du travail d'investigation un peu long. Puis ils ne font pas remonter toutes ces informations-là. Comme j'avais bossé en maîtrise sur la Guinée, j'avais une bonne connaissance de l'histoire de la Guinée. Donc ça, c'est un truc que j'avais beaucoup travaillé. C'est pour ça que j'ai commencé ma thèse en Guinée, en me disant, au moins, là, je maîtrise l'histoire récente, l'histoire politique, et une histoire particulière en Guinée, avec un leader charismatique fort, Sékou Touré, qui a marqué vraiment, c'était un pays qui était très fermé vers l'extérieur, qui s'est rouvert au milieu des années 80. Donc là, je ne découvrais pas, et j'avais déjà été en Guinée, en fait. J'avais déjà été en Guinée, et plusieurs fois en Afrique de l'Ouest. Donc, tout n'était pas nouveau pour moi, mais en revanche, cette région-là, je la connaissais absolument pas. Ouais.
Ça ne s'est pas passé exactement comme vous l'auriez voulu. Est-ce que, mentalement, quand même, ça a dû être un peu difficile, non, quand vous étiez sur place ?
Oui, j'ai eu des moments un peu durs. Ouais, enfin, mais ouais, ça, forcément, quand on passe un peu plus que quelques semaines, on tient, en fait, j'ai l'impression, enfin, en tout cas, c'est très personnel, on peut tenir quelques semaines dans un endroit très différent de là où on habite, en étant un peu cramponné, un peu en force, à dire « bon, allez, même pas mal, quoi ». Si on reste plusieurs mois, il y a un moment où, bon, il faut lâcher un peu quelques barrières. Donc, on a des petits moments un peu déprimés. Mais là, ça coïncidait pour moi avec des trucs de maladie. C'est là que j'ai eu le premier palu un peu fort. Donc, je me suis retrouvé vraiment pendant 3-4 jours par terre. Et là, bon, oui, quand la première crise de palu qu'on a, ça secoue un peu. Donc oui, ça, là, j'ai eu un petit moment de déprime. Mais finalement, pas tant que ça, en fait. J'en garde plutôt un bon souvenir et de gens étonnants, en fait. J'ai eu un truc psychologique qui était un peu dur au moment où, donc quand je suis rentré, qu'avec le directeur de thèse, il m'a dit j'ai un peu peur que et on savait pas à ce moment-là si ça allait, la guerre allait pas repartir, en fait. Et c'était ça qui faisait. Moi, je me suis pas senti en danger. Une ou deux fois, j'ai été un peu trop loin en allant, en tentant d'aller de l'autre côté de la frontière du Libéria. Je me suis retrouvé dans des zones un peu où là, j'ai dit là, je suis allé un peu trop loin avec des. Il y a des zones un peu dangereuses. Et là, bon, j'ai senti que j'avais été dans des zones que moi, je contrôlais plus du tout. Mais sinon, je ne me suis pas du tout senti en danger. En revanche, la perspective d'arrêter le terrain ou de changer de terrain parce qu'il y avait un horizon de guerre qui reprenait, donc l'impossibilité de continuer ma thèse, c'était psychologiquement dur parce que je m'étais déjà lié quand même à des gens qui m'avaient bien accueilli, qui attendaient que je revienne. Et là, bon, je me suis senti un peu. Ouais, c'était difficile. Et il y a des gens que je n'ai jamais revus, en fait. Donc, des gens qui passent dans la région, des acteurs économiques, des gens d'ONG, ou parfois des touristes qui s'encanaillent un peu loin. Ça, ils en ont vu, quoi. Mais par contre, des gens qui viennent et qui repartent, c'est ça qu'ils voient. Des gens qui viennent et qui reviennent une deuxième fois. C'est là que nous, on fait la différence en tant qu'ethnologue, dans la manière qu'on a de rester chez des gens, de prêter vraiment attention. C'est pas un artifice, c'est notre métier, donc on prête vraiment attention à ce qu'ils disent, dans les termes dans lesquels ils les disent. On essaye de se défaire de tout un tas de préconceptions, et c'est un boulot quotidien. Mais le fait de revenir engage la relation d'une manière tout autre que de juste être là, quoi. Donc là, oui, en effet, ça, j'ai raté. J'ai été... Finalement, j'ai fait comme les autres qui sont passés et partis. Donc...
Et donc après ce terrain, comment avez-vous donné suite à votre future recherche? Comment avez-vous réengagé la suite, tout simplement?
Alors donc oui, il s'est agi de trouver un nouveau terrain. Et donc là, c'est un peu des... Je ne sais même pas si je me rappelle de tout, mais en fait, il y a eu un concours de circonstances où moi, je m'étais dit, bon, je veux rester en Guinée quand même, parce que je connais au moins toute l'histoire. J'y suis déjà allé quelques fois. J'avais déjà maintenant mes bons copains à Conakry. Et donc, je me suis dit, bon, ça serait plus simple. Donc, regardons en Guinée. Et je tenais aussi, parce que j'avais travaillé avec quelqu'un qui était un spécialiste du rituel, aussi des questions de parenté. J'avais une familiarité avec les analyses en termes d'initiatique, etc. Ce type de rituel, je le connaissais bien, au moins analytiquement. Et donc, ça m'intéressait de voir un endroit au moins où il y a eu, peut-être que je n'étais pas sûr que le rituel existe encore, mais il y a eu un rituel initiatique qui donne quand même une certaine forme aux relations sociales, notamment en termes de genre, sur une certaine pratique du secret, etc. Donc ça, c'était des questions qui m'intéressaient. Et j'ai cherché, et là, vraiment assez vite, par hasard, un collègue anthropologue, bon, qui était beaucoup plus vieux que moi, que Michael Hausmann connaissait bien, catalan, qui s'appelle Ramon Sarro. Et Ramon Sarro, c'est un type qui a travaillé en Guinée. Donc il n'y a pas beaucoup d'ethnologues en Guinée, donc on se connaît quand même, mais je ne l'avais pas encore rencontré. Donc on s'est rencontrés et lui a bossé sur ce qu'on appelle la basse côte, la région à l'ouest de la Guinée. Mais il avait essayé, des années auparavant, dans les années 80, d'aller tout au nord de la Guinée, chez des gens qu'en français on appelle Bassari, que même s'appelle Béliane. Et il avait tenté d'aller là-bas, sauf que c'est des petites collines, mais c'est assez loin quand même des dernières routes carrossées, donc c'est un peu compliqué d'y aller. Et il n'a jamais réussi, en fait. La moto est tombée en panne, ça a été un fail complet. Et il avait gardé une espèce de nostalgie en disant « Ah, quand même, j'aurais bien aimé aller jusque-là ». Donc il m'a raconté ça. Et du coup, j'ai commencé à lire. En fait, j'ai commencé à lire. Bon, qu'est-ce qui a été écrit sur ces gens qu'un ethnologue n'avait pas réussi à aller voir? Donc, il y avait rien côté Guinée, ou sauf des données très très anciennes pendant la période coloniale, donc avant l'indépendance de la Guinée en 58. Une ethnologue française qui avait travaillé un tout petit peu, qui s'appelait Monique de Lestrange, puis après Monique Gessin quand elle s'est mariée. Mais par contre, cette femme-là, au moment où la Guinée est devenue indépendante, elle est partie au Sénégal. Et donc là, les Bassari, comme plein de populations, sont le partage des frontières fait par les colonies, ont coupé en deux des groupes linguistiques. Donc, il y a des Bassari qui existent au Sénégal. Et là, il y avait une vraie ethnographie menée depuis les années 60, très bien menée. Donc ça, j'ai pu lire tout ça. Et ça m'a amusé, quoi. Ça m'a amusé en le lisant. J'ai trouvé ça très chouette. Et donc, j'ai passé presque plusieurs mois à lire tout ce que je pouvais lire. J'avais contacté aussi, pour aller savoir où aller chez les Bassari, Flora Madic, qui était une ethnologue qui a fait un mémoire de maîtrise sous la direction de Françoise Héritier et qui, elle, était partie vraiment à l'aventure quand même, parce qu'elle était partie juste après la mort de Sékou Touré, au milieu des années 80. Et elle avait passé quelques semaines, mais en remontant, en allant progressivement dans les villes. Puis finalement, elle avait dû passer... Ce qui n'est pas beaucoup, hein. Elle avait passé une semaine dans un village qu'on appelle Akoudiar dans la langue, ou Koudian quand on le prononce un peu comme les Peuls. Elle avait été là-bas, et donc moi je l'avais contactée, j'avais lu son mémoire qui était formidable, et elle a arrêté l'anthropologie, elle est devenue journaliste en Suisse, elle est une fille vraiment très sympa, et elle m'avait dit, il y a un type... Moi, je me suis très bien entendu. Alors, tout à la fin de mon séjour, je suis arrivé dans un village, il y avait un type qui parlait bien français... qui s'appelle Prosper Nyatnin Dimanche Bidiar, c'est son nom complet, quoi. Alors selon qui parle de lui, on l'appelle d'un nom ou d'un autre, de son nom chrétien, de son surnom, de son nom Bassari, ça dépend. Et donc ce type-là, elle m'a dit, oh, il parle très bien français, il avait été charmant avec moi, et donc je me suis dit, bon, ok, ça va être mon point de chute. Je visais cet endroit-là, mais il fallait y aller, donc c'est là que j'ai demandé, dans la dernière ville, à deux bons hommes de m'emmener en moto, qui m'ont fait un prix. J'ai tenté de négocier, mais enfin bon, c'est impossible de négocier quoi que ce soit. On est nul et puis on est mal à l'aise pour négocier. Et ils m'ont emmené. Et ce qui était rigolo, c'est que la moto est tombée en panne comme celle du Catalan 20 ans plus tôt. C'est-à-dire qu'à un moment, on a eu tous les problèmes du monde. On a abîmé les motos. C'est des régions un peu rocailleuses.
Il y a un triangle des Bermudes, mais...
Oui, c'est ça. Voilà. C'est un truc pour dézinguer les anthropologues. Les anthropologues, vous n'irez pas dans ce coin-là. Donc, on a fini par arriver. Et j'ai débarqué, là, le hasard des choses a fait que je suis arrivé en plein moment du rituel d'initiation. Mais c'est vraiment ça. Je ne le savais pas. C'est-à-dire un moment où tout le monde est rassemblé dans ce qui tient lieu de village, mais qui n'est pas toujours habité. Les gens habitent plutôt de manière dispersée et ils ont des lieux de rassemblement qui sont des villages de fête, disons, des lieux où on se rassemble pendant certaines étapes du cycle rituel et surtout pendant l'initiation. Et donc, j'ai débarqué avec ces deux gapeuls qui m'ont laissé sur place. Ils ont vu qu'il y avait des gens, ils étaient furieux comme tout parce que je leur avais donné de l'argent pour m'emmener, mais ça ne couvrait pas les frais de réparation. Eux-mêmes se sentent pas très à l'aise dans les villages Bassari parce que c'est des peuls, donc les gens les ont accueillis. Qui sont ces peuls qui débarquent en plein milieu du rituel d'initiation? Puis pendant l'initiation, c'est très festif, hein, donc on boit. Et donc il y avait beaucoup de gens qui avaient déjà bien bu quand même. Donc moi j'ai débarqué là-dedans, les deux jeunes types, les deux motards me lâchent et repartent furieux très très vite. Et là je demande à voir ce type Prosper Niatnin dimanche. Et on m'amène un type qui débarque, très souriant, passablement éméché, enfin bien dans sa boisson déjà, et qui m'accueille et me dit « Ah, bon, qui es-tu, quoi? Qu'est-ce que tu viens faire là ?» Et j'explique que je viens de la part de Flora Madic, qu'il avait connue il y a très longtemps. Elle m'avait envoyé une lettre, donc je lui ai donné la lettre, qu'il a lue rapidement. « Ah, Flora !» Il était content. « Ah, comment va Flora ?» Et il m'a dit, mais bon, qu'est-ce que tu viens faire là? Je dis, je suis un étudiant en anthropologie, je viens apprendre la langue, aussi un peu l'histoire. Est-ce que je peux m'installer ici? Je cherche un endroit pour m'installer. Bien. Tu restes combien de temps? J'ai dit, un an. OK, prends tes affaires. Et ça s'est fait aussi simplement que ça. Donc, on a mis mes affaires dans le coin. Et puis, j'ai passé 2 jours en plein milieu du rituel d'initiation avec des gens qui s'adressait à moi en bassari que je ne comprenais pas du tout, d'autres qui traduisaient, des gens qui venaient me voir juste par curiosité, plutôt joyeux, mais enfin c'était un peu... c'était assourdissant de complexité. J'avais l'impression que je comprenais... Enfin oui, je ne comprenais rien, mais il se passait beaucoup trop de choses. Et donc c'était étourdissant, ce serait peut-être ça le bon terme, mais j'étais moi-même, puis ils m'ont fait boire un peu, donc j'étais aussi déjà un peu saoul, et en se disant « qu'est-ce que je fais là ?» Donc la première nuit, et c'est vrai, était un peu bizarre où... se demande vraiment, et puis si on va rester là pendant un an, quoi, ça va être difficile.
Et il n'y a eu aucune méfiance de leur part ou d'appréhension, parce que l'initiation, ça peut être un peu secret, et donc un étranger qui arrive en pleine période d'initiation...
Non, ils m'ont gardé, c'est assez marrant, j'ai assisté au rituel dans la position qu'ont les femmes et les enfants, c'est-à-dire à l'écart de certaines séquences qui sont réservées aux hommes. Donc, même la première fois, ils m'ont emmené un tout petit peu dans certaines zones en me disant « Bon, t'es un homme, viens, on te montre. » Mais en s'arrangeant bien pour ne... De toute façon, j'étais incapable de voir ce qui se passait. Vraiment, j'ai eu des choses sous les yeux, j'ai vu des masques, j'ai vu des choses, mais on ne comprend rien du tout. Et ce qui est rigolo, c'est qu'un an après, du coup, j'étais encore là et il y a eu à nouveau l'initiation. Et donc là, je l'avais déjà vu dans d'autres villages environnants, donc ça commençait à être familier pour moi. Mais donc là, j'y ai participé de manière tout à fait différente en étant inclus dans des coulisses qui m'étaient évidemment totalement refusées la première année. Mais ce que j'ai mis du temps à comprendre, enfin, je l'ai compris au fil de l'eau progressivement, c'est qu'eux-mêmes avaient subi les trucs de Sékou Touré, enfin, les trucs, la politique répressive de Sékou Touré. Donc ils avaient l'habitude aussi, l'initiation, elle a été ininterrompue dans cette région, ce qui est assez remarquable, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à la maintenir malgré l'idée de Sékou Touré était de réformer totalement la Guinée, de faire un homme nouveau. Il a lancé une révolution culturelle inspirée de Mao en Chine, donc il fallait transformer les Guinéens. Et donc évidemment, tout ce qui avait l'ordre de spécificité culturelle, donc les gens qui avaient des rituels initiatiques, des organisations statutaires chez les peuls, toute une série de religieuses également, en fait, devaient être bannis totalement. Il fallait transformer un homme nouveau, producteur, etc. Donc, les Bassari ont été, ils ont eu des milices qui venaient, ils avaient l'habitude de déplacer l'endroit, d'emmener les étrangers, un peu les milices, ils les mettaient à un endroit, ils les occupaient, ils les disaient, oui, on fait l'initiation, puis on donnait le change, quoi. Et donc, pendant que le vrai rituel se passait ailleurs, donc, je sais pas s'ils ont fait ça avec moi, mais en tout cas, c'était enfantin pour eux que de discuter avec quelqu'un et que la chose importante se passe ailleurs.
Il n'y a pas besoin de méfiance en soi parce qu'ils avaient déjà établi des stratégies pour continuer.
Ils ont un répertoire de stratégies pour éviter l'État d'une manière générale aujourd'hui, éviter les Français, les colons français à la toute fin du 19e, début 20e, éviter les Peuls, les guerres des Peuls auparavant, éviter Sékou Touré pendant toutes les années. Donc non, ça, c'est des virtuoses de ce point de vue-là, de savoir, sans entrer en conflit, comment éviter les rapports de domination. Donc, moi, j'ai débarqué là-dedans. Donc, pour répondre à la question, en fait, la méfiance, je ne l'ai pas du tout vue ce jour-là, mais elle s'est développée, enfin, c'est-à-dire que j'étais sous observation pendant assez longtemps, où les gens regardaient jusqu'à ce qu'ils comprennent que j'étais quand même pas beaucoup de pouvoir de nuisance, quoi.
Oui, donc, les gens, très faible.
Assez vite, ont plutôt eu un peu pitié de moi, et le discours, c'était plutôt... Mon pauvre, tu souffres ici, est-ce que tu... Puis j'étais seul, sans parents, sans rien. Donc, c'est vraiment la figure de l'orphelin.
Et justement, comment est-ce qu'on s'intègre en tant qu'anthropologue sur une aussi longue durée dans une population?
Je ne sais pas s'il y a une recette clé. Je crois que ça prend des formes très différentes selon les endroits. Mais alors, ou bien les gens ne veulent pas de nous, et puis ils ferment des portes, et là, on n'a rien d'autre à faire que de repartir, ou de tenter de faire autrement. Après certaines portes peuvent s'ouvrir, donc on rentre là. C'est souvent assez révélateur aussi de comment fonctionne la société, de ce à quoi elle tient. Donc, par exemple, moi, la socialisation rapide, donc, premièrement, c'est d'abord être... accueilli dans une famille, donc le Prosper là, et sa famille m'ont accueilli, mais je dormais même pas chez eux au départ. On m'avait foutu dans un bâtiment à l'écart, j'ai dormi seul pendant 2-3 mois. Donc, on avait construit dans cette région-là, il s'était dit que dans ce village-là, il n'y a aucune infrastructure étrangère ou presque. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de choses comme ça. Donc il y a juste des gens qui ont une activité agricole, qui eux voyagent pour aller générer un peu d'argent, vont s'acheter des biens à l'extérieur, mais localement, il n'y a pas de ressources. Et on avait décidé de construire l'État, en fait, avec des fonds étrangers, un petit dispensaire dans ce village-là qui était censé couvrir les 4-5 villages environnants. Bon, il y avait ce bâtiment vide qui n'a jamais accueilli un médecin plus que 15 jours. Et moi, j'avais fait la méprise, j'avais fait l'erreur de dire que je viens faire un doctorat. Donc, le mot avait circulé. Et à un moment, il y a eu une confusion. Ils se sont dit que j'allais être docteur. Mais en fait, ils ont rassemblé les étrangetés. Il y avait ce bâtiment étrange qui est le seul bâtiment avec un toit en tôle ondulée. Les autres, c'est des cases en paille. Et donc, on a mis la figure étrange que j'étais dans le bâtiment étrange. C'est là qu'il sera bien, quoi. Donc, j'habitais dans ce bâtiment pendant quelques mois et j'allais manger tous les jours dans la famille hôte. Donc, voilà, la première intégration, c'était cette famille hôte. Et finalement, on a fini par me construire une petite case dans cette famille. Mais j'ai d'abord habité là et ensuite, la socialisation s'est faite par un des trucs qui est le plus important dans cette région-là et qui m'a fait travailler, que je n'avais pas vraiment anticipé. Mes lectures m'avaient fait voir ça. Je savais que c'était une société avec des classes d'âge, etc. Mais j'avais lu, bon, OK... Là, j'ai vu que c'était très, très puissant localement. Donc, les gens ont joué pendant quelques semaines, pas en termes d'âge biologique, mais en estimation d'âge, plus ou moins. Et donc, on m'a affilié à un groupe de gens qui avaient le même âge que moi et mais qui sont devenus des camarades et qui m'ont entraîné, eux, dans leur groupe. Et à ce moment-là, donc, c'était des gens qui avaient certaines prérogatives d'organiser certaines fêtes, d'organiser l'initiation. Donc, c'est aussi comme ça que j'ai pu participer vraiment à l'initiation. C'était avec ce groupe d'âge. D'enterrer les morts, de distribuer la bière, enfin bon, bref, des gens un peu, moi j'avais déjà peut-être, je sais plus, 27-28 ans, un peu au tournant de la trentaine, et donc voilà, j'ai été socialisé dans ce monde-là, j'ai eu une bande de copains, et j'avais la famille d'accueil à laquelle je rayonnais, quoi.
Thank you. Le système des classes d'âge chez les Bassari, est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots en quoi ça consiste?
Alors c'est une mécanique assez compliquée, mais je peux l'expliquer simplement. À partir de l'initiation, pour les hommes vers une quinzaine d'années, qui est une étape rituelle qui dure à peu près un an, terme à terme, à l'issue de ça, donc quand on a environ 16 ans, on rentre dans une classe d'âge. Tous les gens qui ont fait l'initiation en même temps, plus quelques personnes de l'initiation d'avant et de celle d'après, sont regroupés dans un groupe d'âge qui va passer collectivement dans les années suivantes des échelons. On monte d'échelon en échelon, et ça, c'est tous les 6 ans. Et donc, cette mécanique de tous les 6 ans, elle est très, très réglée. Il y a un spécialiste de ça, quelqu'un qu'on appelle Afonan, celui qui compte, et qui est là pour faire tous les 6 ans. On est dans une... Le groupe d'âge auquel on appartient monte d'un échelon, comme ça. Et en fait, jusqu'à 50 ans, plus ou moins. Et c'est pareil pour les femmes. Les femmes suivent un chemin parallèle. Elles montent, elles sont associées avec les hommes, avec la spécificité que les femmes sont, rentrent d'emblée dans une classe d'âge un peu plus aînée, quoi. Ce qui fait que j'ai le même âge biologique que des femmes qui sont 2 échelons d'âge au-dessus de moi, que j'appellerais des grands-mères. Mais elles ont le même âge biologique que moi. Et les femmes de ma classe d'âge sont plus jeunes.
Et il y a eu un problème à intégrer cette classe d'âge sans avoir eu les échelons précédents?
Oui, moi, je l'ai vécu comme tel. En fait, eux ont été assez inclusifs. Ils m'ont fait prendre le wagon, le train en marche. Mais en même temps, moi, je savais bien que je n'avais pas passé toutes les étapes, et notamment l'étape centrale, l'initiation. J'avais plus 15 ans, et c'était impossible de faire l'initiation. Ils auraient... Enfin, c'était... pas faisable, quoi, en aucune manière. Mais j'ai évidemment regretté de... On a toujours le moment, quand on se sent bien, de dire, mais combien d'étapes j'ai ratées, quoi, en fait, pour... Moi, j'avais envie de non pas de devenir Bassari, j'ai jamais prétendu être autre chose que ce que je suis, mais de diminuer les effets de mon altérité, d'être... de me fondre dans le décor le plus possible que je devienne. Et donc ça, les gens ont été gentils avec moi, donc les compétences linguistiques aident progressivement, même si j'ai jamais atteint le niveau de langue que j'aurais aimé atteindre. Ça a été une grande source de frustration. Et aussi de ne pas avoir vécu toute une série d'étapes avant. Donc, bon, j'ai pris le train en marche, mais en jouant le jeu, c'est d'abord comme un jeu. Puis en fait, c'est un jeu qui oblige, parce que en fait, les gens le font assez sérieusement. Donc, ça a consisté à participer à une série d'étapes rituelles de ma classe d'âge, de prendre aussi quelques coups de bâton comme les autres, de passer un peu... Donc bon, bah voilà, donc j'ai fait quand même, a posteriori, une série de... Et je suis lié, en fait, malgré tout. Là, je vais essayer de retourner sur le terrain cette année, après plusieurs années. Et je sais que je vais retrouver instantanément, quand même. Et on va se saluer avec les gens de ma classe d'âge, bandière, camarade d'âge. C'est l'appellation avec tous les gens que j'ai de ce groupe d'âge. Donc ça fonctionne, même quand on prend le train en retard. Mais comme les collègues qui ont bossé en Australie, la socialisation se fait par la parenté. Là, on est vraiment membre d'un groupe de parenté. Les gens s'appellent par des termes de parenté parce qu'on ne peut pas exister socialement en dehors d'une position de parenté. Donc, les gens se désignent. Ils ont des pères, des mères, des frères, des sœurs. Ce qui, chez les Bassari, est moins évident. Moi, j'ai maintenant des gens que j'appelle mères, frères et sœurs. Mais c'est plus un jeu que le vrai truc, qui est le truc de parent, le truc de classe d'âge. Ouais. Ça, celui-là, il est... Enfin, on n'existe pas socialement en dehors de ça. Donc, ou bien on vous met à l'écart... Et là, ben, il n'y a pas de travail possible, ou bien les gens vous acceptent dans ce qui sont leurs coordonnées sociales, quoi. Ouais.
Il y a une question qui me vient quand on parle de cette frustration là, de ne pas avoir passé toutes les étapes réellement comme les personnes avec qui on vit et qui nous accueillent. Est-ce que vous diriez que c'est plus dans... La frustration, elle vient de la volonté de respecter les traditions des gens qui nous accueillent, ou une volonté vraiment de vivre une réalité ethnographique en tant qu'anthropologue, est-ce que...
Ah oui, non, moi j'étais plus... À un moment, j'étais plus du tout dans le...
On oublie, en fait, au bout d'un moment, qu'on est j'avais juste en train de produire quelque chose.
Moi, tous mes copains étaient des gens qui étaient déjà à une autre étape de vie. Ils étaient déjà mariés, ils avaient des problèmes avec leur femme, ils avaient des enfants, ils commençaient à penser à l'initiation de certains enfants. Enfin, ils étaient dans des problèmes, et moi, j'étais le seul de la bande. Alors, j'étais un bon camarade d'âge comme les autres, mais à un moment, je suis quand même totalement largué. Et donc... Moi, j'aurais rêvé d'un coup de baguette magique, être marié, avoir des enfants, pour être dans la même réalité que les autres, juste pour pouvoir discuter de la même manière. Mais donc, c'était pas du tout réaliste. Moi, je savais que j'allais rentrer. J'ai pas du tout joué ce jeu-là. Mais il y a un moment, je crois, un besoin de normalité, de
confort de vie social, en fait.
Ouais, et puis, j'étais bien, quoi. J'étais heureux. Donc, j'étais très heureux d'aller travailler au champ le matin, de faire mon petit boulot. Il y a eu des moments où j'étais pas un ethnologue très sérieux qui prend ses notes et qui pose des questions. Enfin, ça a même été l'essentiel de mon terrain, a consisté
à vivre une
vie. Mais ce genre de terrain, c'est des terrains très immersifs. Donc, on est vraiment, on vit avec les gens sur lesquels on travaille plus ou moins. Enfin, je sortais de la famille, hein, j'avais quand même des entretiens un peu plus systématiques à conduire, mais il y a des terrains qui ne fonctionnent pas du tout comme ça, en fait. Ou des terrains plus proches, ou des terrains dans des zones urbaines où on ne vit pas au milieu des gens en permanence. Donc, ça ne peut pas prendre la même forme. Mais oui, là, sur ce genre de terrain où on habite avec les gens, on ne peut pas être... Enfin, moi, je ne pouvais pas être ethnologue du matin au soir, donc j'avais juste un besoin de normalité.
Oui, parce que je ne sais plus si on l'a précisé, ça a duré 15 mois, c'est ça?
Oui, c'est ça. Je suis rentré au bout de 15 mois, fatigué quand même. Hein. J'étais content de rentrer.
C'est inhabituel comme durée de terrain.
Je ne sais pas ce que je m'étais inventé, moi, comme histoire. J'avais l'impression que c'était ça, un terrain sérieux, qu'il fallait faire ça. Mais c'est aussi peut-être une image un peu romantique, mais c'était aussi les gens que je lisais. Il y avait quand même des gens qui avaient fait des terrains longs, quand même.
Mais ça datait de quand, à peu près, les lectures que vous aviez
Non, mais je lisais pas mal de trucs en anglais. Je voyais des gens, même des gens à la LSI, en Angleterre, où on fait des terrains longs, quoi. Et mon directeur de thèse, donc là, pour le coup, en effet, c'est des choses plus vieilles. Les gens autour de moi, j'étais socialisé, j'étais un peu au laboratoire d'anthropologie sociale dans ce coin-là. Donc, c'est beaucoup de gens avec des terrains lointains, avec une certaine idée de l'anthropologie qui peut-être a pris un peu un coup de vieux aujourd'hui. Moi, je continue à y croire. On est quelques-uns à penser. Et il y avait cette idée... Ouais, puis, j'avais pris du retard. Moi, je me sentais un peu à la bourre. J'avais passé déjà quelques mois dans une région, arrêté, repris la bibliothèque pendant plusieurs mois. Donc, ma thèse, j'étais déjà en deuxième ou de début de... J'allais vers ma troisième thèse. Donc, il fallait que je parte. J'avais plus le luxe de partir deux mois pour voir si ça me va. Donc, il fallait rester longtemps. Et là, c'est le truc... Je ne crois pas que c'est romantique, en fait. J'y crois vraiment. Mais qui est de dire... que Michael Hausmann m'avait dit, qui a plus ou moins marché, c'est de dire, au bout de six mois, à un moment, tu vas être au fond du seau, quoi. Ou bien tu es malade à répétition, tu n'en peux plus, ou tu réalises que les ennemis de tes amis sont devenus tes ennemis, ou bien, pour tout un tas de raisons, à un moment, on atteint un point de saturation, de nostalgie, de mal, et puis on n'en peut plus, quoi. Et donc, on a envie de bouler. Et je crois que c'est bien d'aller de l'autre côté de ce truc-là. Donc, un peu méthode Coué. Et de fait, au bout de 5 mois, là, j'avais vraiment accumulé une série de maladies, de fatigue. Et puis, j'étais plus en posture d'avancer. Donc, je suis revenu à Conakry pendant... Et puis, ça m'a permis de renouveler aussi. Je crois qu'il y avait des affaires de visa. Et j'ai retrouvé mes copains, donc des gens que je connais bien, qui sont des Guinéens, mais avec qui linguistiquement c'est facile. Et puis j'ai remangé un peu, j'ai repris quelques kilos que j'avais perdus, je me suis refait un peu une santé, je suis resté peut-être 3 semaines, et ça a suffi. Je suis reparti là-bas, puis après je suis resté longtemps, quoi. Mais donc c'était bien d'avoir une petite coupure au milieu, mais que cette coupure ne me fasse pas rentrer jusqu'en France. Mais c'était aussi une époque. Je dis une époque, ça y est, je parle comme un peu un vieux jeton, mais il n'y avait pas de portable non plus. C'était une des zones. Alors, il y avait déjà le portable dans plein de régions. Hein, c'est 2006-2007, ce long terrain. Mais dans le coin où j'étais, il n'y avait pas de portable. Donc, ça m'a permis de ne pas trop communiquer avec la famille, avec les gens restés en France. Et moi, j'ai l'impression que ça m'a aidé à ne pas cultiver une nostalgie. Parce que si j'avais eu les gens au téléphone, même chaque semaine, j'ai l'impression que ça aurait été trop dur, en fait, de rester loin.
Quand vous disiez que vous n'avez jamais prétendu être quelqu'un d'autre que vous-même, comment on fait quand on passe autant de temps sur le terrain, qu'on a des périodes où mentalement ça ne va pas, et qu'on a ce besoin de confort social quand même, de conformer aux normes de la société dans laquelle on est? Comment on fait justement pour ne pas se perdre, en fait, au niveau de sa propre identité?
Je sais, moi j'ai... c'était tellement évident que j'étais pas Bassari, quoi. Il y a un truc chromatique, quoi. J'étais le seul blanc de la région, donc ça saute un peu aux yeux. Mais bon, après tout, pourquoi pas? Enfin, ça, on peut passer au-delà de ça, mais il y a plein de compétences sociales que j'avais pas, un niveau de langue et une... Ouais, j'ai quand même mis les pieds dans le plat, beaucoup. Hein. Les gens étaient très indulgents, très gentils. Ils ont accompagné mes tâtonnements. D'ailleurs, en me mettant souvent sur les pistes, mais on met longtemps à comprendre que les gens nous donnent des clés, mais en fait, on n'est même pas capable de bien comprendre les clés. Donc, l'incompétence chronique dont on fait preuve est quand même un bon rappel qu'on n'est pas. On ne joue pas le jeu à armes égales, quoi, dans les compétences sociales. C'est pareil pour le retour, en fait, quand on rentre de 15 mois, enfin, au moins 15, ou ça pourrait être un an et demi, ou même un an, ou même moins. Alors ça, c'est vrai. Moi, j'ai des collègues, des copains qui sont totalement décalés pendant super longtemps, etc. Moi, je n'ai pas du tout ressenti ça parce que c'est quand même les codes culturels ici, je les connais tellement bien. Je suis revenu, j'ai retrouvé ma famille, j'ai retrouvé des amis. Alors, il y a un sentiment d'étrangeté, hein, il est quand même assez fort. On est un peu décalés, mais en fait, c'est tellement plus facile pour moi de me déplacer, Ah, je suis tellement plus compétent dans ce monde-là que là-bas.
C'est comme le vélo, quoi.
C'est comme le vélo, ouais. On n'oublie pas. Enfin, j'ai jamais oublié que j'étais français, et français d'une certaine famille, avec une certaine éducation, certains codes culturels. Ma personnalité chez les Bassarines n'est évidemment pas celle-là, parce que celle-là ne fonctionne pas, quoi. C'est pas la bonne. Donc, je suis quelqu'un d'autre, mais ce quelqu'un d'autre n'est pas un Bassari. Je ne peux pas prétendre ça en ayant vécu. On te fait un peu plus de 2 ans là-bas.
Est-ce que vous avez expérimenté ce fait d'être introduit à de nouvelles personnes en dehors du cercle que vous connaissiez durant votre terrain, dans d'autres villages,
Ah oui, en fait, mais donc, oui, nécessairement. Donc j'ai rayonné de manière un peu large, quoi. Donc j'ai énormément marché chez les Massari. Donc le but était de couvrir. J'avais comme horizon aussi de comprendre ces questions de parenté, mais de manière très empirique. Donc il fallait que je sache un peu qui est qui sur une aire assez grande. Et donc, je passais mon temps à découvrir des gens nouveaux. Mais les nouvelles de ma présence avaient circulé beaucoup plus vite que moi. Donc, c'est-à-dire que je débarquais chez des gens qui connaissaient déjà mon existence. Et moi, je ne les connaissais pas. Et donc, c'est ce truc que beaucoup d'ethnologues ont connu et qui est terrible. C'est-à-dire qu'on croise des gens et qu'ils disent « Ah, mais tu te rappelles de moi, on a parlé la semaine dernière. » Et on se rappelle, mais en fait, quand il faut apprendre... Là, je blague pas, c'est des centaines de prénoms et de noms. En fait, on est mis... Il y a quelques centaines de personnes qui finissent par vous connaître. On met du temps à mémoriser quelques dizaines de personnes. Donc, non, il y avait eu un événement. Ça, c'était assez marrant. Je me suis fait embarquer par mes copains d'âge là, à danser, la danse annuelle qu'on fait, etc. Donc, c'était tout un événement qui était rigolo à vivre. J'y suis allé un peu à reculons. Puis, en fait, ça a provoqué des choses amusantes. Et notamment, donc j'ai fait ce truc de danser. Donc plusieurs villages sont réunis, puis on accueille un village qui arrive avec tous ses danseurs, et on va danser pendant 3 jours. Donc c'est quand même un truc assez important. On boit beaucoup, mais on est très bien accueillis. Puis après, on accueille les autres villages. Donc l'ensemble va durer 3 semaines. C'est un gros événement. Et chez les Bassarines, donc on est un peu le village où moi j'étais, puis la plupart des villages de cette région-là sont un peu à l'écart, mais on se retrouve, il y a des marchés hebdomadaires qui peuvent être parfois à 15-20 km et où les gens se retrouvent. Et donc moi, j'allais de temps en temps acheter du sel, des condiments, des choses et que je ramenais au village et je partais avec des Bassari. Et je pars donc au village et puis là, il y a des gens qui me disent « Ah, c'est toi le danseur !» Des gens là que je connaissais absolument parce que ça prend des Bassari de toute la région. Et donc des gens qui venaient me voir et que j'avais évidemment jamais vu. Donc, on se retrouve, de fait, oui, présenté. Alors, je ne sais pas si c'était le sens de ta question, Robin, mais présenté à des gens qu'en fait, on ne connaît absolument pas et qu'on essaye tant bien que mal de se rappeler, de se remémorer. Et l'autre chose, moi, c'est qu'on m'avait pris pour... Donc, les gens ont entendu qu'il y avait un blanc dans ce coin-là qui apprenait la langue. Et puis après, il y a des gens qui m'ont croisé au marché. Ils disaient « Ah, c'est un blanc qui parle un peu Bassari. » Tout le monde ne savait pas qui j'étais.
Un blanc docteur et danseur.
Oui, c'est ça. Avant même que je danse. Et donc, pas docteur, heureusement. Et du coup, les types se disent « Ah, mais... » Ils venaient moi, ils me disent « Est-ce que t'es le fils de Jimmy, quoi ?» Jimmy. Et Jimmy, en fait, Jimmy, c'est l'autre blanc de la région. Mais alors lui, il est là depuis beaucoup plus longtemps parce qu'il est né dans le coin. C'est un Canadien protestant et qui est né. Son père était pasteur aussi et qui avait essayé d'évangéliser une partie du nord, du sud du Sénégal. Mais donc, ce type, le Jimmy, qui lui-même a fait des enfants, en fait, le Jimmy, il parle parfaitement Bassari. Mais moi, donc, pendant très longtemps, j'entendais ce Jimmy sans l'avoir jamais croisé. Et donc, les gens me prenaient pour un des fils de Jimmy. Parce que s'il y a un blanc qui parle Bassari, c'est un des fils de Jimmy.
Vous parliez d'appartenance, mais comment se fait l'appartenance chez les Bassari?
L'appartenance, le fait d'être Bassari?
Oui, exactement.
Bah, il faut être, comme c'est une société qu'on dit matrilinéaire, donc où la plupart de l'identité, les choses passent par les femmes. Donc, le plus important, c'est d'être un enfant d'une femme Bassari. Donc là, automatiquement, on est Bassari. Mais il y a des gens, ça moi je l'ai trouvé en faisant des généalogies, en remontant un peu dans l'histoire, des gens qui étaient totalement, c'est des Bassari, ils portent des... Parfois on l'entend dans le nom, il y a une variante dans le nom, et on se dit tiens, c'est un nom Bassari un peu étrange, mais ils sont vraiment considérés comme des purs Bassari. Mais si on remonte un peu dans l'histoire, c'était par exemple, je pense à quelques personnes qui ont été des Konyagi, donc c'est l'un des groupes voisins, qui sont pendant des guerres avec les Peuls ou des choses comme ça, qui sont venus se réfugier dans le pays Bassari. Donc, c'est des réfugiés, mais qui, en une génération, même en l'espace durant leur vie, sont arrivés enfants, puis sont devenus Bassari, parce qu'initiés, en fait. C'est plutôt l'endroit pour un homme où on a été initié qui fait de nous un Bassari. Ouais.
Vous disiez que vous alliez bientôt repartir sur le terrain. Ça peut être parfois source d'angoisse. Est-ce que vous sauriez expliquer pourquoi?
Et ouais, moi, ça fait longtemps que je ne suis pas allé là. Ouais. Donc, c'est un peu dur, je crois. Ça va dater de 6-7 ans. Et l'angoisse, elle est aussi... Enfin, elle est que moi, je n'ai pas de nouvelles. Je n'ai pas de moyen de rester en contact avec les gens. Donc, là, il y a un coup de téléphone. Je vois, et puis j'ai toujours peur qu'il y ait des gens qui soient morts. J'ai plus aussi, peut-être, hein, j'ai plus tout à fait la même santé pour rester pendant des mois là-bas. J'ai plus le mode de vie qui me permet de rester aussi longtemps. Donc, c'est des séjours plus brefs. Et les derniers terrains étaient un peu comme camping à la dure avec des vieux copains, quoi. Donc, on se raconte nos histoires passées. Donc, on est très pris. Je suis toujours très excité pendant une semaine de retrouver des gens. Et après, il faut renouveler aussi un intérêt intellectuel pour dire « Est-ce que je peux dire quelque chose de nouveau ?» ou pas. Et donc là, ça, c'est aussi le temps de la recherche, de réussir à clôturer des questions intellectuelles qu'on a formulées il y a longtemps et d'en ouvrir de nouvelles. Et donc, c'est pas évident, ça, de ce point de vue-là. Et le retour sur le terrain remet un peu tout ça en question sur l'attachement éprouvé avec des gens, mais parfois qu'on n'a pas vu depuis assez longtemps. Donc, est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que les choses vont bien reprendre? Est-ce que je les ai laissés dans un bon état? Est-ce que tout va bien se passer? Et aussi de retrouver... ce que j'avais facilement pendant la thèse, parce que tout était tellement nouveau pour moi, qu'il y a un espèce d'étonnement intellectuel un peu permanent, de dire, mais là je comprends rien, il faut que j'essaye de comprendre ça. Là il y a quand même beaucoup de choses, alors j'en ai pas fait le tour, mais je suis témoin de choses où je sais à peu près où ça va, je comprends, il y a quand même pas mal d'aspects de la vie sociale que j'ai au moins, ouais, que j'ai déjà étudié, je comprends, quoi.
C'est ça qui est intéressant aussi quand on revient sur le terrain, c'est que techniquement on a, surtout vous qui êtes resté aussi longtemps, vous avez quand même tous les codes, plus ou moins. Mais c'est le fait de laisser quelque chose dont on sait qu'elle va continuer à bouger et à changer, et de revenir comme ça, de réattraper le train, ouais. Ça crée une espèce d'angoisse de « mais comment je vais retrouver les gens là-bas ?» Puis je ne sais pas si vous, ça s'applique à votre cas, mais une question aussi de légitimité, de « je pars, je reviens, je pars, je reviens ». Enfin, c'est peut-être un peu compliqué à gérer de ce côté-là.
Ouais, là, ils sont assez gentils avec en tout cas, toutes les fois, parce que je suis quand même revenu, l'expérience du retour, je l'ai déjà faite un petit paquet de fois, donc sur des terrains de quelques mois, puis après de plus en plus courts, jusqu'à quelques semaines, en fait. Mais donc là, c'est assez marrant, parce que les gens m'accueillent comme si j'étais là la veille, quoi. Et donc, avec souvent, il y a une ou deux personnes qui disent « Ah tiens, c'est marrant, j'ai rêvé de toi hier, moi je suis pas surpris que tu arrives. » Donc, ils ont un truc de pas du tout surpris, je débarque, assez content. Et en fait, en tout cas, c'était ça. Enfin, maintenant, comme ça fait un peu longtemps, j'ai peur que ça ne se passe pas comme ça, mais ça s'est toujours un peu passé comme ça. J'ai peur de mes propres compétences linguistiques. Je me dis « Est-ce que je suis capable de parler, de me remettre dans cet autre qui est l'autre un peu moins incompétent, quoi, celui qui arrive à jouer le jeu des interactions sociales ?» Et en fait, ça revient... Enfin, si ça se passe comme ça s'est passé les fois d'avant, ça se passe mieux que mes inquiétudes. Donc, ça devrait aller.
Donc, c'est formidable. Merci beaucoup, Laurent, d'être venu pour ce premier épisode, d'avoir inauguré ce nouveau podcast.
Merci infiniment à vous. Oui, c'était très, très intéressant de revenir sur ces choses qu'on ne dit pas vraiment, toujours dans les salles de cours, qu'on échange parfois avec les collègues, mais pas in extenso, plutôt sous la forme de clin d'œil, où chacun a vécu ses propres terrains. Donc, on se comprend à demi-mot, mais en fait, entre les demi-mots et les silences, on n'a pas toujours beaucoup d'informations.
Eh bien, merci beaucoup, et ce sera au plaisir de vous retrouver dans un nouvel épisode avec un nouvel invité.